Grazia. Grazia Delicam, la bande originale.
Bonjour, je suis Arnaud Laporte et vous écoutez le podcast Cannes en grand, consacré aux stars et personnalités françaises qui vont briller lors de cette 71e édition du Festival de Cannes.
Grazia.
Aujourd'hui, nous recevons Virginie Efira, l'affiche de Sibylle de Justine Triet, film présenté en compétition officielle. Virginie Efira y incarne le rôle titre, celui d'une psy qui va sortir de son rôle, se servant de la vie d'une de ses patientes pour nourrir l'écriture de son nouveau roman. On va commencer par le commencement, Virginie Efira, cette première scène de Sibylle. Vous êtes face à Aurélien Bélanger, qui joue un vrai faux ami, qui se réjouit de votre retour vers l'écriture, mais qui quand même vous en dissuade de fait. Et cette scène, elle est particulière parce qu'il a un débit quand même très puissant, et vous le regardez par votre regard, vos expressions. Comment ça se prépare, une scène comme ça ?
Ça ne se prépare pas. En fait, ça se prépare pas parce qu'il suffit juste d'entendre la logorée absolument parfaite d'Aurélien Bélanger pour en avoir le tournis. Et puis, plus Justine avait décidé de tourner cette scène dans un endroit où les sushis passaient et repassaient comme une somme d'informations, comme le flux, le flux qui est partout, BFM, Internet, les informations. Et quelque part, je crois que tu peux te référer aussi à quelque chose que à peu près tout le monde a dû malheureusement rencontrer dans sa vie. C'est quelqu'un qui essaye de t'encourager en te décourageant. Qui essaye de te dire c'est très bien ce que tu fais, mais bon, ça sert pas à grand chose, ou ça va être très compliqué, ou bien tu m'intéresses beaucoup, mais je vais t'expliquer moi ce que j'en pense pendant 6h30 et finalement je vais pas t'écouter. Et certainement pas parce que la scène est comique, je crois, mais en essayant d'être comique, peut-être pas essayer d'être comique, en fait, juste l'écouter lui. Et j'aimais bien aussi que cette scène ait une forme de résonance par rapport à Victoria, où je crois que le film de Justine est très différent de Victoria, sur la réalisation, sur les thèmes abordés et tout. Mais cette scène-là, elle est assez proche, parce que j'avais déjà tourné avec Aurélien une scène où il parlait de physique quantique et d'un œuf sur le plan en même temps, on comprenait rien, et il me lâchait pas la grappe. Et donc, je connaissais un peu ça. Et puis, on a souvent des gens qui nous inondent de paroles, on peut rien placer comme... on peut pas dire grand-chose, et où l'échange n'existe pas, quoi.
Alors, ça dit, écouter, ça fait partie du personnage de Sibylle, puisqu'elle est psychanalyste, et que donc elle écoute beaucoup. Bon, après, ça va un peu dégénérer sans intervenir trop. Est-ce que vous êtes, vous, une bonne écouteuse dans la vie, une bonne confidente ?
Je crois que oui. Oui, c'est deux choses différentes, une bonne écouteuse et une bonne confidente. Parce que par confidence, ça veut dire quelqu'un qui respecterait toujours l'idée de la confidence. Là, c'est peut-être plus nuancé, ce que je pourrais dire à mon propos. Mais qui écoute, oui, parce que ça m'intéresse. Et parce que oui. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de mal à faire plusieurs choses en même temps, parce que ça dilue en général un peu l'écoute. Donc j'aime bien vraiment écouter. Et comme acteur aussi, parce que c'est la seule possibilité de brancher une onde qui se déplace, quoi. Qui fait que tu te branches sur une onde autre et que tu dois juste te suivre. Et sans écoute, c'est un principe de base, hein, mais encore faut-il vraiment l'appliquer. Et du coup, n'importe quelle petite nuance que l'autre va apporter, si tu écoutes vraiment, oriente quelque chose aussi. Et puis, il faut un processus de tournage qui permet ça, et une malléabilité des acteurs aussi, pour pas être... En tout cas, dans un travail avec Justine, qui serait un travail trop de reproduction, de creuser forcément le même sillon et tout ça. Donc, parfois, c'est sur des petites choses, mais c'est des petites choses qui trahissent, en fait, un intime, quelque chose de plus profond.
Voilà. Ça veut dire que d'une prise à une autre, vous pouvez proposer des choses très différentes ?
Oui, je pense, oui. Oui, de fait, en travaillant avec Justine, oui. Et puis, moi, j'aime beaucoup ça, en fait, aussi. C'est ça qui est excitant, c'est-à-dire tu connais une sorte de point de départ, tu te débarrasses de l'idée de vouloir bien faire, donc d'arriver à un point final entendu, pour ensuite laisser libre et que des choses puissent te précéder quelque part. Et j'aime ça davantage encore quand il y a un cadre. Victoria, il y avait ça, mais là je trouve qu'il y a un cadre encore plus affirmé de réalisation, et j'aime assez bien quand les deux se juxtaposent. J'ai eu de la chance de faire un film avec un très grand metteur en scène après, avec Paul Verhoeven, juste après Justine, et c'est pareil, c'est quand même quelqu'un qui qui storyboard tout, qui voit exactement les images, mais il peut même te dire les fractions de secondes où il y a quelque chose. Et donc, tu sais bien que tu t'inscris à l'intérieur d'une image, ce qui d'ailleurs t'enlève un peu la pression, parce que tout ne repose pas sur toi. En fait, l'image, elle est grande. Et à l'intérieur de ça, laisser l'air passer quand même. Pouvoir faire une proposition, laisser des trucs, retrouver un espace de liberté. C'est peut-être le seul point commun, d'ailleurs, je pense, avec la télévision, parce que parfois on me pose cette question que tu ne m'as absolument pas posée, mais j'y réponds quand même, parce que c'est pas possible. Non, mais je pense à ça, parfois, dans l'espace de liberté dans une émission, surtout divertissement, elle est vraiment infime. Mais alors tu te dis, bon, il faut bien que je me démerde avec ce petit endroit-là pour quand même, malgré tout, essayer de faire un peu des trucs, pas être complètement linéaire. Bon, c'est... Moi,
mais Sybille, le personnage, il a un parcours très long, très riche, très complexe au long du film. Donc, dans chaque scène, il y a quand même assez peu de marge de manœuvre parce qu'il faut la construire, cette progression du personnage quand même.
Oui, tu détermines avant, puisque évidemment on tourne en ordre pas chronologique comme tout le monde, tu détermines quand même des endroits d'affaissement successifs. Il y a des manières de travailler très différemment. Les flashbacks, par exemple, c'est les moments dans le film où on retrouve sa jeunesse, ou en tout cas 10 ans avant, une relation amoureuse qui était fondamentale, et dont on ne voit que des fragments. Et là, il faut quand même arriver déjà avec comme on prend des moments de vie, comme Justine n'a pas fait des flashbacks, avec « Oh, le moment où je l'ai rencontré, oh, le moment du premier restaurant, ou tout ça », et que c'est plutôt comme des bribes de choses. Il faut vraiment avoir imaginé qu'est-ce qui s'est passé avant, qu'est-ce qui se passera après, pour que ça soit nourri d'un intime compris, quoi, puisqu'on ne va pas dire au spectateur... donner des informations dans le scénario en disant « Mais non, ça fait 10 ans qu'on est ensemble et tu me parles comme ça ?» Non. Alors que ton grand-père lui-même en était mort ? Non, bon. Donc ça, tu travailles comme ça. Et après, il y a de la perdition. Il y a arrêter parfois de penser que le personnage, ce serait ceci, cela. Parfois, on ne sait pas. Mieux vaut peut-être pas savoir. Parfois, tu suis juste... vraiment Stromboli, j'étais paumée. Alors on faisait une trentaine de prises différentes de comique à pas du tout comique, par exemple. Parce que moi, du tout cas, je m'étais dessiné un petit personnage que je trouvais très amusant, comme quelqu'un qui se redéfinissait, qui se réinventait sur cette île, et qui était et Cynthia qui travaille avec Justine, qui s'occupe du jeu des acteurs, me dit ah là là, ce que tu fais depuis 2 jours, c'est vraiment bizarre. Je dis ah bon merde. Elle me dit oui, enfin bon, ça dévalue un peu ton personnage. Et en même temps, Justine dit n'écoute pas, c'est hyper drôle. Je dis qu'est-ce que je fais moi, alors je sais plus quoi faire. Alors on faisait tout. J'allais, j'ai des trucs où j'insistais pas sur le comique, mais peut-être si tu essayes d'aller chercher plus, et puis d'autres choses où tu restes dans un truc plus introspectif. Et finalement, elle m'a dit elle-même qu'au montage. Elle a utilisé ce mot de recracher, qu'on n'utilise pas assez souvent, que le film recrachait la drôlerie, me concernant parce que Sandra Hiller et son personnage, c'est vraiment à mourir de rire. Donc voilà, il y a des moments où on construit, des moments où on ne construit pas grand-chose.
Mais du coup, vous attendez quoi d'un ou d'une metteur en scène ? Vous livrez, vous vous laissez recracher ? Ou est-ce que vous proposez beaucoup ? Est-ce que vous avez besoin de beaucoup parler avant le film ? Ou est-ce que ça dépend à chaque fois des rencontres ?
De manière globale, j'ai pas besoin de beaucoup parler avant le film, ce qui tombe bien. Par exemple, quand le film avec Verhoeven, où je joue quand même une nonne au Moyen-Âge possédée par Jésus, elle rentre dans des états pas possibles, le scénario est incroyable. Ouais, je comprends, moi aussi. Et enfin, moi j'ai déjà tourné, donc moi c'est fait. J'avais hâte, c'était une chose folle. Mais je lui dis avant, et donc pour la préparation, il fait what preparation, you know what you must do. Ok, donc tu fais ok, bon ben tu vas faire avec ça et t'arrives, tu vas pas te dire attends mais Paul, est-ce que tu crois que mon personnage avant, non allez c'est bon, t'arrives, t'as travaillé toi-même, t'as une idée, tu te fais une. Ce qui est super, c'est de travailler en se disant ok, lui va travailler sur l'ambiguïté, mais moi si je décide de jouer juste la sincérité, tant mieux. Je joue pas le film, je comprends, j'essaie de comprendre le film et puis tu joues ton truc à toi et lui il filme ça comme il veut. Là pour le film de Justine, c'était quoi exactement la question ?
Qu'est-ce que vous attendez de votre metteur en scène ?
Ah, qu'est-ce que j'attends de mon metteur en scène ?
La préparation.
J'attends que ça compte énormément pour lui, j'attends que que tout compte, j'attends un éveil perpétuel, une attention aux choses, même si c'est quelqu'un qui fait que deux prises, mais alors du coup il aurait pensé à quelque chose, t'attends quand même dans un rapport à ce qu'il y a un échange, et un échange c'est aussi pouvoir étonner l'un. Il y a quand même ce truc d'avoir envie de donner. Pour ça, c'est faut que la personne exerce ça en toi. Qu'il faut une considération. Et puis des envies de cinéma. Et puis donc t'attends une implication, t'attends un du goût, je sais pas, plein de choses.
Est-ce que tourner beaucoup, ça peut être vous pouvez le pressentir comme un danger? Est-ce qu'il n'y aurait pas besoin d'être un peu en jachère de temps en temps, de vivre en dehors des tournages, même si j'espère que vous avez une vie?
Ben, probablement, parce qu'il y a beaucoup de gens quand on me parle du fait que je tourne beaucoup, qui m'en parlent un petit peu comme si je me faisais des fixes d'héroïne et qu'il serait peut-être temps de se calmer. Donc je me dis, il doit y avoir quelque chose là-dedans.
Je ne me permettrai pas.
Mais disons que... est-ce que c'est la particularité de comment se passe mon existence personnelle qui fait, ou bien un déni qui fait que j'ai l'impression que j'arrive complètement à vivre une vie en dehors, quoi. Tout s'entremêle, les choses s'entremêlent. Il n'y a pas un segment de vie professionnelle puis un segment de vie personnelle qui viendrait grignoter. Je sais que c'est pas le propos de l'interview, mais imaginons sur le truc le plus évident, l'enfant. Le mien, donc. Comme il y a pas, c'est pas encore un âge où il faut se en séparer pour pouvoir tourner, bah, en fait, et que c'est pas non plus un métier où tu es devant ton écran du matin jusqu'au soir. Il y a quand même... Donc, j'ai pas encore eu cette question où, à un moment donné, il y a vraiment celle du choix. Non. Donc, il n'y a pas eu de sacrifice non plus. Ça, je pense que tu peux pas tenir ça tout le temps. C'est ça là, mais ça ne sera plus à un moment donné, j'imagine. Bah ouais, non, mais puis après, j'ai commencé tard, hein, faut m'excuser, quoi. Ouais.
Mais non, mais justement, il y a peut-être lié à cela, il y en a pour qui ça va très vite. Mmh. Vous, ça a pris le temps dans ce métier-là, mais du coup, est-ce que ça ne vous donne pas quelque chose en plus que des jeunes comédiens ou comédiennes qui sont dans la lumière très tôt?
Alors j'ai cru longtemps que ça me donnait quelque chose en moins. Donc je n'arrivais pas à me débarrasser d'un sentiment de honte qui ferait qu'un metteur en scène intéressé, voilà, pouvait se dire, mais alors si le cinéma t'intéresse autant, et si ceci, pourquoi tu passais ton temps là-bas du coup, j'ai quand au moment où je me suis débarrassée de la honte, était quand même assez important, parce que du coup ça change aussi le rapport. Avant, dès que je rencontrais un metteur en scène que je trouvais intéressant, je me mettais presque dans une sorte de complexe ou d'infériorité. Et maintenant, il n'y a plus cette question-là. C'est plutôt la question de l'échange. Est-ce qu'on a quelque chose à échanger ou pas? Et c'est pas si grave. Mais
ça a changé quand?
J'imagine que ça vient petit à petit, en fait. Comment on se débarrasse de la honte, comment on arrive à penser, non pas voilà, que son parcours est plus intéressant que celui de quelqu'un d'autre, mais en tout cas pas moins. Enfin voilà, ok, c'est pas le Conservatoire National, je l'ai fait un peu en Belgique, mais la vérité c'est que je l'ai fait trois mois. Puis je suis partie pourtant avec une troupe un peu obscure, et puis après, j'ai plus passé de temps à donner le hit parade à Bruxelles en faisant moins de place pour machin truc qui remonte plus 3. Enfin voilà. Mais bon, du coup, j'ai senti aussi l'ennui, l'idée des possibles un peu enfermés. Donc, par exemple, Justine aussi, elle m'aide pour ça. Je crois qu'elle aime bien moi ça chez moi aussi, en fait, qu'elle aime bien le fait de pas avoir forcément commencé à 14 ans dans le cinéma en connaissant tout, en ayant j'ai commencé à travailler assez jeune dans d'autres choses, donc t'es nourri par ça, ça fait que ça produit une identité, en tout cas, au moins.
Alors, une question presque égoïste peut-être, ouais. Pour finir, Virginie et Fira, quand est-ce qu'on vous voit sur un plateau de théâtre?
Quand on me proposera quelque chose de bien.
Ça n'arrive pas, donc?
Mais ça, de nouveau, les choses, elles sont difficiles à... Ça, alors vraiment, le théâtre est pour moi l'endroit de l'essai quelque part. Enfin, et qu'on m'a plus proposé des choses dans le privé, un tout petit peu établies, que j'irais pas forcément voir moi en tant que spectatrice. Donc, j'ai pas reçu de proposition vraiment percutante, en fait.
Il y a les metteurs en scène avec qui vous avez envie de travailler ?
Oui, forcément.
On les nomme ou pas ?
Non, mais là, j'ai pu dissimuler mon inculture et tu vas voir, ça va être une sorte de. Mais non, mais alors je pense qu'à des trucs hyper basiques, tu vois. Hein, le premier truc qui me vient est presque nationaliste. Je dis, ah oui, j'aimerais bien faire Ivo Vanov. Ah, oui. J'aimerais. Bah oui, c'est déjà pas mal. Oui, bien sûr. Voilà. Et puis après, il y a des troupes qui me fascinent, mais qui sont plus dans l'écriture de plateau, qui est quand même un truc très complexe. Cette chose-là est rarement intéressante et qui parfois, chez certains, un peu. Voilà, là, je. Mais c'est toujours le moment de te demander des noms que tu les trouves pas, c'est embêtant. En plus, il y a Mimi qui est là.
Et c'est fini. Le temps qui m'était imparti est achevé.
C'est fini.
Voilà. Et accident du travail pour terminer. Merci à Virginie Efira. C'est la fin de cet épisode de la bande originale du Grazia delle Cannes. Il a été monté et mixé par Frédéric Fortuny. Vous aimez l'émission? Alors, s'il vous plaît, dites-le nous en mettant 5 étoiles sur l'application Apple Podcast et en partageant les épisodes autour de vous. Écoutez-nous sur Deezer, Apple et toutes les autres plateformes, ainsi que sur grazia.fr, où vous pouvez retrouver toute notre actualité consacrée au Festival de Cannes. À demain pour un nouvel épisode.